Journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un western mortel cette nuit sur un tournage au Nouveau-Mexique. L'acteur Alec Baldwin tire et tue la directrice de la photo. Il blesse aussi grièvement le réalisateur du film. L'arme aurait dû être chargée à blanc. Récit de ce qui ressemble à un dramatique accident dans un instant. C'était donc ça la solution du gouvernement. Une indemnité classe moyenne annoncée hier soir pour faire face à la hausse du coût de la vie en général. 100 euros pour tous ceux qui engagent. Gagne moins de 2000 par mois. Analyse et réaction à suivre. À la une ce matin, il y a aussi les vacances à partir de ce soir. Manifestement, les Français qui en ont les moyens ont envie de prendre l'air. Et le début de la campagne de vaccination contre la grippe dans un contexte de l'entreprise du Covid. On en parlera avec l'invité du grand entretien, Nicolas.
Oui, l'épidémiologiste Philippe Amouyel. Il est professeur de santé publique au CHU de Lille, également directeur général de la Fondation Alzheimer. Il dialoguera avec vous, répondra à toutes vos questions au standard 01 45 24 7000. Vous avez la parole dans une bonne vingtaine de minutes.
Dans ce journal aussi, des survivalistes armés comme pour la guerre arrêtés à Saint-Étienne. Des attaques homophobes en provenance de Russie contre le patineur français Guillaume Cizeron avant les Jeux de Pékin. Et les 100 ans du premier des copains, l'âge qu'aurait eu Georges Brassens s'il ne nous avait pas quittés en 1981.
France Inter.
Des méchants et des flingues, il en faut quand on tourne un western. Les brutes sont des acteurs et les pistolets tirent pour de faux. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça sur le tournage de Rust hier dans un ranch du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Alec Baldwin, dans le rôle principal du hors-la-loi, tire. Il tue la directrice de la photo du film et blesse grièvement le réalisateur. Avec nous, Loïc Piala, en direct de Los Angeles. Bonjour.
Bonjour.
On se demande évidemment ce qui s'est passé, Loïc, et pour l'instant, c'est l'hypothèse de l'accident qui est retenue.
Voilà, en tout cas, personne n'a été arrêté pour l'instant. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur le tournage de ce western, intitulé Rust, vous le disiez, mais la police confirme que c'est bien Alec Baldwin qui a tiré avec cette arme censée être chargée à blanc. Il a touché, vous le disiez, le réalisateur Joël Souza, qui est traité pour ses blessures, ainsi que la directrice photo Aliana Hutchins, qui, elle, est décédée après avoir été transportée par hélicoptère à l'hôpital. Elle avait 42 ans. Alors, est-ce qu'Alec Baldwin était au milieu d'une répétition avec le réalisateur et la directrice photo, qui est la numéro 2 sur un plateau? Est-ce que toute l'équipe tournait une scène? Est-ce que l'acteur s'amuse avec l'arme en pensant qu'elle n'était pas chargée? Est-ce que l'armurier a fait une erreur en donnant le mauvais pistolet, parce qu'on utilise souvent des vraies armes sur les tournages? La police, qui a été appelée sur place vers 14h heure locale, a été en tout cas interrogée. Baldwin, l'acteur de 68 ans, connu entre autres pour La Poursuite d'Octobre Rouge ou la série Côte Ouest, a été vu en larmes devant le bureau du shérif de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique, c'est un état désertique entre l'Arizona et le Texas, dont le paysage et les crédits d'impôt se prêtent au tournage, dont les westerns comme celui que Baldwin interprète et produit. Et puis cet incident évoque forcément le film fantastique The Crow. Souvenez-vous, c'était en 1993 et l'acteur principal, Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, avait été tué à 28 ans par une arme qui devait être chargée à blanc.
Loïc Piala en direct de Los Angeles pour France Inter. Au Royaume-Uni, les Britanniques se font du souci pour leur reine de 95 ans. Elle a passé la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital pour des examens préliminaires, a annoncé Buckingham. Elle est rentrée chez elle hier midi, mise au repos par ses médecins. Elisabeth II va devoir alléger son programme dans les jours qui viennent.
Il est 8h04, ça ne sera donc pas un chèque carburant, Florence, mais une indemnité pouvoir d'achat.
Annoncé hier soir par Jean Castex, 100 euros en une fois pour faire face à la hausse du coût de la vie, distribuée à 38 millions de Français qui gagnent au moins de 2000 euros net par mois, avec ou sans voiture, travailleurs, chômeurs, étudiants, indépendants, retraités. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Le gouvernement, dans un premier temps, avait parlé d'aider les plus précaires. Il cible finalement plus largement la classe moyenne.
L'entourage du Premier ministre nous le confie. D'ailleurs, c'est Jean Castex lui-même qui a tenu à mettre l'accent là-dessus.
C'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez, en quelque sorte.
Il faut dire que les membres du gouvernement ne cachaient pas leur inquiétude de voir, après les gilets jaunes, ces classes moyennes se révolter à leur tour. La colère des cols blancs, disait un communicant ministériel. Se révolter, peut-être pas sur les ronds-points, explique un proche de Jean Castex, mais devant leur télé, en se disant que ce n'est jamais pour eux. L'exécutif pense donc avoir trouvé le bon compromis, une aide qui concerne beaucoup plus de monde que le chèque énergie annoncé il y a 3 semaines, et à l'arrivée, beaucoup moins coûteuse qu'une baisse des taxes, sur laquelle il aurait été quasiment impossible de revenir.
Et le gouvernement, Simon, espère ne pas remettre la main à la poche d'ici la présidentielle.
L'Élysée et Matignon insistent bien sur le caractère exceptionnel de cette mesure, surtout après le chèque énergie que l'on vient d'évoquer. Voilà pourquoi le Premier ministre parle d'une indemnité inflation et pas d'un chèque carburant.
Certes, on parle, vous avez raison, de l'essence, mais il n'y a pas que l'essence. Il n'y a pas que l'essence.
Le gouvernement tente ainsi d'éviter un risque, celui de devoir multiplier les chèques. Si on avait fait une nouvelle mesure ciblée sur l'essence, demain on aurait dû faire un chèque aliment et ainsi de suite, décrypte un conseiller. Autour d'Emmanuel Macron, on espère donc s'être enfin donné suffisamment d'air pour pouvoir vanter le bilan pouvoir d'achat du président et ne plus seulement subir les événements.
Simon Le Baron, merci du service politique de France Inter. 100 euros distribués à partir de la fin décembre. Qu'en pensent ceux qui vont les toucher? Rémi Brancato est allé poser la question dans une station-service de la banlieue parisienne où le cadeau du gouvernement n'a sans doute pas provoqué l'effet escompté.
Au comptoir de la station essence, entre Asnières et Gennevilliers, pas question de dépenser trop pour Brian.
Est-ce que je pourrais avoir 20,98€ s'il vous plaît? 20,95€.
95 c'est moins cher. Je vais juste mettre 20€ parce que c'est trop cher.
Avec son ami Moussa, tous les deux ont du mal à payer le carburant. Ils devraient percevoir l'indemnité annoncée par Jean Castex.
Moi je suis au chômage.
Vous allez toucher 100€ d'ici fin décembre.
D'accord, bah, c'est intéressant en tout cas. Parce qu'on peut plus se permettre de mettre des plats.
À la pompe voisine, Sabrina, comptable, et sa fille font leurs calculs. Elle dit dépenser 30 à 50 euros de plus chaque mois avec la hausse des prix. Alors pour elle, l'aide de l'État ne suffira pas.
Oui, je gagne moins de 2 000€. Je vais le toucher, mais c'est pas ça qui va éponger toute l'augmentation. Ça couvre un mois, deux mois. Si c'est un chèque de 100€, bah, il va me permettre juste de remplir mon caddie à Carrefour une fois. Au lieu de prendre une bouteille d'huile, je prendrai deux bouteilles d'huile. Je me ferai un stock avec les 100€. Et peut-être même, pour faire plaisir, une tablette de chocolat.
Même sentiment pour Emmanuel et Salomé.
C'est insignifiant.
Je pense que 100€, c'est plus une sucette qu'on nous donne. Ça ne va pas compenser pour tous les Français.
Là, vous venez de faire le plein?
Non, là, j'ai mis 5€, j'ai pas d'argent.
Car l'étudiant qui habite à 50 km de son lieu de stage est souvent obligé de laisser sa voiture. Et selon lui, l'indemnité du gouvernement n'y changera pas grand-chose.
Rémi Brancato et le Premier ministre a aussi annoncé le blocage du prix du gaz pour toute l'année 2022 et non plus jusqu'en avril, car la baisse des tarifs s'annonce plus lente que prévu. Ceux qui se réjouissent ce vendredi, ce sont les vacanciers de la Toussaint, ceux qui ont prévu de partir dans les 2 semaines à venir et ceux qui les accueilleront pour les vacances. Elles s'annoncent florissantes pour les professionnels du tourisme. Stéphanie Scoc, la saison finit très bien dans les hôtels d'Arcachon, par exemple.
À l'hôtel Richelieu, face à la jetée d'Arcachon, le carnet de réservation est quasiment plein et le téléphone de Muriel Martin, la propriétaire, continue de sonner.
On sent véritablement que c'est le dernier élan, la dernière possibilité d'aller à la plage, de pouvoir profiter de l'air arcachonné. Puis bon, bah, c'est vrai que quand on regarde les reportages, on se dit, ah bah regarde, il fait encore beau, on peut peut-être aller encore se baigner, profiter de ces derniers instants. Donc c'est un engouement et puis pas mal de réservations du coup de dernière minute.
Cette fois-ci, c'est la dernière ligne droite pour les professionnels du tourisme. Après la Toussaint, la plupart des hôtels d'Arcachon vont baisser le rideau sur une très belle saison 2021. Patrick Pujol, président du club hôtelier du bassin d'Arcachon, dresse le bilan.
On peut dire qu'il est très bon. L'hôtellerie arcachonnaise a très très bien travaillé à partir de sa réouverture à la mi-mai. C'était le 12 mai. Beau taux d'occupation. Les Français sont restés en France et sont venus nous voir. Et on en est bien heureux. Donc, belle saison. On ne va pas du tout se plaindre. On est retombé sur des chiffres équivalents, voire même supérieurs à 2019, qui était déjà une belle année.
Alors, est-il possible de faire encore mieux? Peut-être, en créant un tourisme des 4 saisons et lisser le nombre de visiteurs sur toute l'année en freinant le tourisme de masse l'été. Une réflexion est en cours. Elle est portée par le CIBA, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon.
Et en direction d'Arcachon, ou d'ailleurs à l'ouest, la SNCF, 3 syndicats de conducteurs appellent à la grève pour ce début des vacances. Question de salaire et de conditions de travail. Résultat, 1 TGV Atlantique sur 10 annulé aujourd'hui, 1 sur 3 demain et dimanche. La grippe et son vaccin, millésime, automne-hiver 2021. La campagne commence aujourd'hui dans les cabinets médicaux et les pharmacies. Alors qu'on s'attend à une recrudescence des contagions cette année, ce qui pourrait faire très mauvais ménage avec le Covid. 1 millier de contaminations de plus hier comparé à la semaine dernière. Et pour ceux que le vaccin anti-Covid ne protège pas, il y a urgence. C'est le cas de certains greffés et immunodéprimés qui ne bénéficient pas suffisamment des anticorps monoclonaux. Un traitement préventif recommandé par la Haute Autorité de Santé. Véronique Julia, plusieurs associations appellent à les administrer à ces patients les plus fragiles.
Ils sont quelque 57 000 en France, greffés, malades du cancer, immunodéprimés, qui malgré les 3 doses de vaccin n'ont pas fabriqué d'anticorps contre le Covid. Le vaccin sur eux n'est pas efficient. Pour les protéger, la seule solution, c'est donc de leur administrer une fois par mois à l'hôpital en préventif des anticorps monoclonaux, ce qu'on appelle le Ronaprev, qui empêche le virus d'attaquer. Problème, 2 mois après le feu vert de la Haute Autorité de Santé, il n'était début octobre que 2% à en avoir bénéficié. Certains ne savent même pas qu'ils peuvent y prétendre, alors même qu'ils sont arrivés risque de forme très grave. Colère de Magali Léo de l'association Rénalou qui fédère des insuffisants rénaux. Il y a, dit-elle, de très importantes inégalités d'accès sur le territoire.
Il n'y a pas de problème de dose. L'État a acheté des doses en nombre suffisant pour couvrir les besoins. Il n'y a pas non plus de problème de prix puisque c'est l'État qui a acheté les doses et donc les doses sont disponibles pour les établissements qui en ont besoin. Donc on a effectivement des pertes de chance qui sont tout à fait majeures pour les patients.
L'association a saisi la Haute Autorité de Santé pour lui rappeler sa mission de garantie des soins. Elle signale que depuis début août, 426 patients transplantés rénaux ont attrapé le Covid et 70 en sont décédés. Si les autres n'accèdent pas très vite à ces anticorps, les autorités pourraient avoir, prévient-elle, des morts sur la conscience.
Véronique Julia, l'équivalent d'un SMIC pour aider un proche âgé, malade ou handicapé. Le gouvernement propose une augmentation du congé aidant qui existe depuis un an et d'en élargir les critères. Les députés devraient largement voter pour aujourd'hui à l'Assemblée. La pénurie de semi-conducteurs ravageuse pour l'industrie automobile. Renault anticipe ce matin une baisse de sa production proche de 500 000 véhicules cette année.
Il est 8h11, Florence, un arsenal de guerre découvert dans la Loire.
Deux hommes et une femme appartenant à un groupuscule d'ultra-droite tendance survivaliste ont été arrêtés lundi à Saint-Étienne et dans des communes alentours. Tout est parti, Véronique Narboud, d'un renseignement donné à la préfecture de la Loire.
Ce renseignement était suffisamment inquiétant pour que la police judiciaire de Saint-Étienne se fasse épauler par les services de l'antiterrorisme. Les policiers sont donc intervenus lundi matin pour perquisitionner un commerce et les domiciles respectifs des trois suspects, âgés de 22 à 49 ans. Le leader présumé du groupe est un trentenaire. C'est dans sa maison de Saint-Genès-Malifaux que 95% des armes ont été retrouvées. Pistolets mitrailleurs, fusils d'assaut, fusils à pompe, grenades et plus de 2500 munitions. Les enquêteurs ont aussi retrouvé des stocks de vivres, des produits pharmaceutiques et chirurgicaux, quasiment de quoi constituer un bloc opératoire, selon une source policière. Pour autant, d'après les premiers éléments de l'enquête, et malgré cet arsenal très impressionnant, les trois individus ne semblaient pas sur le point de commettre un attentat. Ça n'est donc pas le parquet antiterroriste qui est saisi, mais celui de Saint-Étienne. Les trois individus sont mis en examen, notamment pour acquisition et détention illégale de matériel de guerre, armes, munitions ou engins explosifs. Deux d'entre eux sont placés sous contrôle judiciaire. Le leader présumé, lui, est en détention provisoire.
Toujours dans les milieux d'ultra-droite, Rémi Daillet, figure des complotistes, déjà mis en examen dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia pour la rendre à sa mère en avril dans les Vosges, a été extrait de sa cellule et placé en garde à vue mardi avec sa secrétaire. Ce sont ses liens avec le groupuscule Honneur et Nation qui sont examinés. Plusieurs de ses membres, déjà interpellés, sont soupçonnés d'avoir fomenté des projets de coup d'État, des actions violentes contre des loges maçonniques, des centres de vaccination ou des personnalités.
Il est 8h13, pardon Florence, 4 fois champion du monde de danse sur glace.
Guillaume Cizeron fait des envieux manifestement qui cherche à déstabiliser le patineur, victime d'attaques homophobes en provenance de Russie. C'est un ancien juge russe qui a fait allusion à son orientation sexuelle, Adel Belhomri, à 4 mois des Jeux d'hiver de Pékin.
Papadakis et Cizeron sont très bons, mais ils sont froids, le patineur est gay et il ne peut pas le cacher. Les mots de l'ancien juge russe Alexander Vedenin ont tout de suite fait réagir Guillaume Cizeron chez nos confrères de France Télévisions.
Je trouve ça assez lamentable. C'est comme si on disait qu'un acteur gay ne peut pas jouer un homme hétéro dans un film. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, il y aurait vraiment beaucoup d'acteurs à Hollywood qui seraient au chômage.
L'arbitre russe souhaite déstabiliser les Français qui vont aller chercher l'or olympique à Pékin, seul titre qui manque à leur palmarès.
On nous craint parce qu'on est les favoris. J'espère qu'on va être jugé de manière objective pour la performance qu'on donne et pas pour notre orientation sexuelle.
De tels propos dans la bouche d'un ex-juge russe, et coïncidence ou pas, à Pékin, les principaux rivaux des Français sont russes, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, qui selon cet arbitre sont plus capables d'exprimer le véritable amour et de jouer sur les sentiments parce qu'ils sont hétérosexuels, un jugement insupportable pour Guillaume Cizeron.
Les gens veulent voir une performance, les gens veulent voir de l'émotion, les gens veulent voir de la virtuosité, les gens veulent voir une connexion.
La présidente de la Fédération française de patinage, Nathalie Péchala, a demandé à l'instance internationale de prendre des mesures pour condamner ces actes.
Adel Belhomri est sur les terrains de Rome. Ce sont des cris racistes qui ont été entendus hier soir contre les joueurs de Marseille. L'OM l'OM a fait match nul pour la troisième fois depuis le début de la Ligue Europa contre la Lazio. Quand Lyon s'est offert une troisième victoire, 4-3 contre le Sparta, Monaco s'est imposé 2-1 à Eindhoven et prend la tête de son groupe. Enfin, il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Georges Brassens, sa moustache et sa guitare qui semblent toujours nous accompagner 40 ans après sa mort. Lui et ses copains d'abord, sa jolie fleur ou sa complainte pour être enterré sur la plage de Sète. Ses chansons sont notre patrimoine, Mathieu Culeron, et cela mérite bien un hommage.
J'avais l'impression que la plupart des gens n'aimaient pas ce que je faisais ou étaient choqués. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. J'avais peur.
C'est Patachou qui présente Georges Brassens à Jacques Canetti en 1952. Le fondateur de la salle des Trois Baudets voit en lui un grand chanteur alors qu'il est refusé de tous les cabarets montmartrois. Françoise Canetti, la fille du producteur, se souvient des premiers instants de Brassens sur une scène.
Comment ne pas se souvenir de cette première fois où j'ai vu Georges Brassens transpirant à grosses gouttes, très introverti. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de chanter ses chansons et c'est quelqu'un qui rêve de voir ses chansons chantées par d'autres. Il a déjà ses chansons magnifiques. Mon père dit, Brassens a trouvé cette alchimie qui fait de grandes chansons.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux.
La musique de Georges Brassens ne cesse d'inspirer les jeunes générations. C'est le cas du chanteur Gontard qui lui rendra hommage chez lui à Sète la semaine prochaine.
Ce qui me plaît chez lui, c'est cet anarchisme qui n'oublie pas les gens en fait. Sophistiqué au niveau musical aussi, parce que va siffloter ou chantonner des lignes de chant de Brassens, c'est vachement dur. J'ai un côté un peu gamin et lui avait ce côté-là aussi un peu provoque. Tu vas dire une vacherie, puis derrière tu fais un gros câlin et tu finis sur le câlin en fait.
Timide, introverti, humble et irrévérencieux, Brassens a changé en profondeur la chanson française en la rendant à la fois plus moderne et plus proche des gens.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une...
Comment ne pas chanter?
Ben oui.
Et vous le faites merveilleusement. Merci Florence Paracuelos. Marie-Pierre Planchon tout de suite.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobile, utilitaire, poids lourd, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Et ma chère Marie-Pierre, il fait plus froid ce matin.
Oui, on se recroqueville hein, avec ces gelées sur la moitié nord et la poussée anticyclonique. Ça donne des brouillards assez nombreux de l'intérieur de la Normandie, à l'Île-de-France, à la Champagne-Ardenne, mais aussi des Charentes, à la région bordelaise. Et après la dissipation de ces brouillards, la matinée sera ensoleillée. En revanche, le ciel est plus nuageux des Alpes du Nord au Massif central, aux Pyrénées avec quelques gouttes et quelques flocons même des 1800 mètres, et puis autour de la Méditerranée, le soleil se lève avec du Mistral et de la Tramontane, et en Corse, le ciel sans nuages avec déjà 19 à Figari. Contraste avec les moins 2 dans la Marne, moins 1 sur les Ardennes ou Fontainebleau. Il fait 4 à Quimper à Paris, 9 à Guéret et 16 à Menton.
Et le ciel sera plus lumineux, Marie-Pierre, cet après-midi.
Oui, avec cette hausse des pressions, eh bien, les éclaircies seront plus nombreuses avec encore quelques petites averses. Du sud-ouest à l'Auvergne, en revanche, sur la moitié nord, les cumulus vont se former et donneront aussi des averses en fin de journée de la Normandie dit à l'Île-de-France en soirée à la Lorraine. Autour de la Grande Bleue, le soleil sera au rendez-vous comme en Corse, mais sous le vent toujours, et des températures en baisse. Hein, seulement 11 à Épinal, 13 à Lille-Nevers, vous aurez 14 à Paris et à Lyon, 15 à Quimper, 17 à Toulouse, 20 à Avignon, 21 à Sète et Nice et 23 à Bastia.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 8h19. Géopolitique, Pierre Aski.